Europe 1,
11h30,
bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mélanie.
Bonjour Julia, bonjour tout le monde.
Alors bienvenue dans Bien fait pour vous, votre émission dédiée au bien-être, au mieux vivre et à votre santé tous les jours en direct. De 11h à 12h30, on vous parle de votre vie quotidienne, comment mieux consommer, mieux gérer votre vie de famille ou même votre boulot.
Alors aujourd'hui Julia, comme tous les jours, on va commencer en se posant ensemble une question de notre vie quotidienne. Aujourd'hui la voilà, comment détoxifier sa maison. On parlera notamment rangement, décoration et même feng shui pour trouver enfin l'harmonie chez soi et en soi. Et pour nous expliquer comment nous y prendre très concrètement, nous recevrons Alexandra Virac, elle est psychodécoratrice. D'ailleurs, si vous avez des questions sur la maison détox, n'hésitez pas à nous les poser sur le 3921, notre répondeur, ou encore sur Twitter au hashtag Europe 1.
Ensuite, à 11h45, il y aura notre séquence tendance avec tous les jours deux de nos chroniqueurs. Et ce matin, Philippine Darblé, notre spécialiste art de vivre et d'humeur gourmande. Elle va nous éclairer sur les dernières tendances en matière de cacao. Et puis Sophie Braffman, notre spécialiste mode, a mis la barre très très haut aujourd'hui. Elle nous a prévenu, ce sera ambiance tapis rouge dans sa chronique ce matin.
Enfin Julia, dès midi, dans la partie santé et bien-être de cette émission, il sera question des acouphènes, ces sensations auditives, ces bourdonnements que certains doivent subir à longueur de journée. Et bien avec le médecin ORL Didier Boucara, on verra quelles sont les solutions pour retrouver un peu de silence et de sérénité dans les oreilles. Bien fait pour vous, c'est parti. Alors Julia, aujourd'hui on se demande, on se pose la question suivante, et si ma maison, mon intérieur avait besoin d'une cure détox?
Et oui Mélanie, il ne sera pas question de régime ou de boisson drainante, mais simplement de détoxifier nos logements, que l'on vive seul, en couple ou en famille. Mais avant de passer à nos conseils, on va, comme tous les jours, amorcer ce sujet avec légèreté et bonne humeur en compagnie de notre cher chroniqueur Clément Lanoux. Bonjour Clément.
Bonjour tout le monde, merci de m'avoir invité justement pour ce beau sujet. Au début, je suis arrivé avec un micro, je dois aller voir des gens dans la rue et leur poser des questions. On m'a dit le sujet du jour c'est la maison détox. Je pensais que c'était un truc où tous les drogués se réunissaient, pas du tout. La maison détox, on m'a dit les rangements, aménagements, bien-être.
Et en plus, vous êtes en plein déménagement, ça a dû vous inspirer, je suis sûr.
Ça m'inspire, je vais écouter l'émission justement attentivement, prendre des notes. Et on va même parler du feng shui, vous l'avez bien dit. Le feng shui, c'est quoi? J'ai posé la question.
C'est un art japonais.
C'est une danse.
Bon, ce soit quoi un truc de fils, hein.
Bah ouais, c'est quoi le feng shui?
Alors, il y en a plein qui connaissent le mot, effectivement. On ne sait pas ce que c'est que le feng shui. Certains avaient la réponse, évidemment.
Alors, pour moi, le feng shui, c'est un mot un petit peu à la mode, hein, qui fait bien. En fait, c'est juste de l'aménagement d'une pièce qui fait que tu te sens bien, en fait. Selon la disposition de tes meubles, en fonction de la lumière, de la fenêtre, tout ça.
Vous êtes feng shui, vous, chez vous, Clément?
Moi, je ne suis pas vraiment feng shui. Ça dépend. Moi, je suis bordel organisé. J'en mets un petit peu partout, je vois. Bon, alors apparemment, si j'ai bien compris la définition, c'est bien rangé pour se sentir bien. C'est à peu près ça. Je leur ai dit, mais je vous jure que faire le ménage, ça fait du bien. Personne ne me croyait.
Pour moi, le rangement, eh ben, il me fait du bien. Il fait du bien au moral parce que je me dis, demain, je fais ci, je range comme ça, là, je fais un tri, là. Eh bien, tout de suite, ça va mieux.
Bah, comme ça, on est tranquille, au moins, c'est tout propre à la maison.
Ça fait pas du bien.
Bah, je comprends pourquoi mes enfants n'ont jamais le moral.
Bah, moi, ma maman, elle a pas le moral quand elle range ma chambre.
Oh, trop mignon.
Effectivement, tout le monde n'est pas d'accord avec ça.
Moi, quand je range ma chambre, bah, j'ai pas le moral, c'est le moral de ma mère, hein, parce que elle a le moral parce qu'elle m'oblige à ranger ma chambre, du coup je la range, mais c'est chiant quoi de ranger sa chambre. C'est mieux qu'il y a le bordel et on range pas.
C'est mieux qu'il y a le bordel. Et voilà.
La vérité sort de la bouche des enfants, effectivement. Alors quand on range, il paraît qu'il y a deux types de personnes. Il y a vraiment ceux qui aiment vider les placards, changer régulièrement.
Ça c'est Julia, ça.
Et il y a les conservateurs, ça c'est vous? Non.
Ouais, non, je change, je travaille là-dessus.
Parce que j'ai trouvé un paquet de conservateurs.
Ah, moi je garde tout, je mets tout dans le garage, comme ça j'ai tout à portée de main. Bon d'ailleurs, peut-être que je jette un ou deux petits trucs parce que là ma voiture elle rentre plus là, mais bon après.
Moi je garde tous mes jouets.
Ah, moi je conserve tout, j'ai encore mes dents de lait, puis j'ai encore mon mari quoi.
Moi aussi j'ai des mes dents de lait, je les ai retrouvées dans une petite boîte qui est elle-même dans une grosse boîte,
voilà,
qui est elle-même dans un gros carton.
Et vous avez toujours votre mari
et
en
vous
plus.
Avez toujours votre mari, c'est ça, vous êtes donc une conservatrice. Les enfants sont-ils conservateurs ou pas? On leur a posé la question aussi.
Moi je suis plutôt du genre à garder, à conserver que de jeter. Quand je quand ma maman elle veut vendre un truc ou donner, moi j'aime pas, comme j'aime bien les garder, c'est comme des souvenirs pour moi.
C'est pour ça que je fais ça quand ils sont pas là, les enfants. C'est moi, vrai. Je vide tout, je me débarrasse très vite des affaires des autres.
Et
en fait.
Des enfants également. Mais c'est dur en fait, on aime faire le ménage mais on n'a pas envie, je crois que cette dame a tout résumé.
Je me sens trop bien quand je fais 2 heures de ménage chez moi parce que je fais du tri dans mes armoires. Mais j'avoue que je préfère quand même que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse parce que je préfère faire autre chose à la place. Tu vois, genre sortir avec mes copines. J'avoue que faire le ménage, ça reste quand même une grosse perte de temps dans la semaine.
Mais
une
grosse perte de temps. Mais non, je suis pas d'accord. C'est génial. C'est le bonheur, le ménage, le rangement.
Vous allez nous expliquer ça. Je reste pour ça. J'ai envie de donnez-moi l'envie de ranger, s'il vous plaît.
Bah déjà, on va donner l'envie à Clément de rester avec nous.
Hein, bah oui, merci Clément.
Je l'avais déjà ça.
Vous restez avec nous parce que demain on va parler de la crise de la quarantaine. Vous serez avec nous. En plus, vous approchez. Vous êtes dans le sujet là aussi. Vous
pas
êtes dans
du
le
tout.
Thème.
J'ai 37 ans. Je ne viendrai pas demain, mais effectivement, je serai là demain.
Allez, tout de suite, Julia. En tout cas, on accueille notre invitée du jour. Elle est psychodécoratrice. C'est vous, Alexandra Virac. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes également l'autrice des livres suivants: Feng Shui, Force d'Harmonie aux éditions Trajectoire, et Rangement Détox, un autre ouvrage aux éditions Solar. Alors ça tombe bien, hein, c'est de tout cela dont on va parler ce matin. Mais d'abord Alexandra, vous êtes psychodécoratrice, j'ai dit, donc c'est quoi exactement ce métier en fait, qu'on ne connaît pas forcément d'ailleurs, expliquez-nous.
Alors l'idée est en fait d'investiguer tous les objets qui se trouvent à l'intérieur de notre habitation et de les regarder sous un angle psychologique, c'est-à-dire quelle est notre relation aux couleurs, aux matières, aux formes, aux objets de mémoire, aux objets empoisonnés, aux cadeaux qu'on a reçus, etc. Et de tous les remettre en perspective de notre psyché et nous dire, ben voilà, est-ce que j'aime cet objet, est-ce qu'il me fait du bien, est-ce que tout ça est à sa place chez moi.
Alors là, on va parler de la détox de notre intérieur, mais pas celui dont on a l'habitude de parler, c'est-à-dire que là, on va parler de la détox de la maison, mais ça veut dire quoi? Que si on ne s'occupe pas de notre intérieur à la maison, c'est comme notre intérieur en vrai, ça s'encrasse.
Exactement.
On risque la maladie.
Alors ça peut aller jusque-là, parce qu'effectivement, lorsqu'on a beaucoup de poussière et qu'on a trop de bibelots, on va avoir des acariens, on va avoir éventuellement des moisissures. Et quand on a vraiment trop d'encombrement, ben ça génère une forme de sédentarité. On va moins recevoir chez soi à la maison parce qu'on est gêné, parce que l'environnement n'est pas propre, n'est pas...
On a un appartement ou une maison qui est malade en fait, c'est un peu ça.
Voilà, ce serait une façon de mettre un terme un petit peu fort. Mais de la même façon qu'on n'ingurgite pas n'importe quoi, ben c'est pareil, on ne devrait pas laisser entrer chez nous des objets qui seraient des gadgets toxiques, des objets qu'on n'aurait pas achetés, qu'on n'aurait pas aimés.
Alors, on peut parler de pollution visuelle ou pas? Parce que moi j'ai ça à l'extérieur quand je suis en vacances. Si genre je suis dans un endroit que je trouve pas beau, ça me déprime. Et à l'inverse, juste une belle vue, ça me remet en bonne santé. C'est un peu le même principe ou pas du tout?
Exactement. Et on va parler de bruit décoratif en fait. En psychodécoration. C'est-à-dire que plus il y a d'informations générées par des tas de bibelots et d'objets qui n'ont pas vraiment leur place, plus ça nous fatigue et ça ne nous permet pas de reposer notre esprit. Autant on préfère regarder un horizon dégagé, autant quand on travaille, on a besoin d'avoir un espace ouvert devant soi et pas plein de petits bazars qui se trouvent là.
Dans les grandes lignes, on va dire, c'est quoi les signes qui doivent me faire dire ma maison est malade, mon appartement a besoin d'être détoxifié? C'est quoi les premiers signes, on va dire?
Alors, comme la maison, c'est vraiment le miroir de nous-mêmes, et c'est un deuxième corps qui vient se superposer à notre corps physique. Eh bien, dès qu'on éprouve, nous, dans notre vie, un manque de motivation, un manque d'allant, un manque d'énergie, un manque d'inspiration et d'idées, on peut se dire, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas un effet dans mon habitation? Est-ce que je ne pourrais pas regarder là, échanger et alléger?
Alors, quand on parle d'allègement et de changement, on ne parle pas du petit coup de ménage, hein, tous les samedis, tout ça, c'est encore autre chose. Hein.
On fait un travail un petit peu plus en profondeur.
Oui, tout à fait. À quel rythme, d'ailleurs, vous conseillez? Quoi?
Alors, l'idéal est évidemment de faire un gros travail de nettoyage et de purification, je dirais, une fois tous les... par saison en tout cas.
D'accord.
Changement de saison, c'est
le ménage vraiment... de printemps, ça existe vraiment et c'est à la fois psychologique en fait, c'est
et
ça?
Et ça a du sens, ça a du sens d'avoir ces rythmes-là et puis surtout d'adopter une bonne relation au ménage et au rangement pour qu'on ait plus qu'à le faire 10 minutes par jour, grand maximum.
Exactement. Moi j'adore l'image justement de la maison qui est un autre soi en fait, un autre corps. Donc si on déménage dans plus petit, il y a des chances qu'on maigrisse ou pas du tout?
Vous croyez pas si bien dire. Vous ne croyez pas si bien dire. Vous êtes un adepte de Marie Kondo sans le savoir, Clément. Eh bien, Alexandra Virac, vous restez encore avec nous. On va passer à la pratique à présent avec vous, justement, comment procéder dans son appartement, à sa maison, dans sa maison, tout ça pour faire un tri, un rangement détox qui nous permet de retrouver l'harmonie chez soi, mais aussi en soi. Bref, des tas de conseils à venir sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez, Julia Vignali.
De retour dans Bienfait pour vous, votre magazine tourné uniquement vers le positif, dans lequel on vous donne toutes nos astuces, nos conseils ce matin pour répondre à cette question. Comment détoxifier nos intérieurs, nos appartes, nos maisons? Alors pour y voir plus clair, Alexandra Virag, vous êtes toujours avec nous. Je rappelle que vous êtes psychodécoratrice et l'autrice du livre Feng Shui, force d'harmonie aux éditions Trajectoire. Alors, est-ce que cette détox d'intérieur, si on a un peu la flemme, on peut laisser ça à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'un professionnel du rangement comme vous, par exemple, peut le faire? Est-ce que c'est pas plus simple?
Alors oui, tout à fait, c'est possible, mais c'est toujours important d'avoir un regard sur ce qui se passe à l'intérieur de chez soi, parce que nous sommes la personne qui possédons nos objets, même si parfois ce sont eux qui nous possèdent, plus on en a. Mais le faire avec une amie, une copine ou être accompagné nous permet d'aller beaucoup plus vite, parce qu'on peut se détacher plus facilement au niveau émotionnel. Quelqu'un a un regard extérieur et ça nous aide à ne pas à désinvestir les objets de toute la gangue d'émotions dont on les enveloppe en fait.
Alors on a compris que la psychodécoration c'est bien plus que de simples petits coups de ménage ou d'aspirateur tous les week-ends ou tous les 2-3 jours. C'est-à-dire que c'est comme une thérapie, on peut dire ça, c'est ranger chez soi, détoxifier son intérieur, ça peut marcher et avoir sur mon organisme des bienfaits comme une thérapie.
Alors effectivement, c'est un effet thérapeutique parce qu'on y passe beaucoup de temps. Alors c'est vrai que depuis un an et demi, on a passé aussi de plus en plus de temps dans nos intérieurs. Et du coup, ben, on va dire que notre psyché ricoche d'une certaine façon par rapport à la décoration qui se trouve à l'intérieur de nos murs. Donc si on a des tableaux qui ne sont pas vraiment à leur place, si on a des objets qui sont liés à une mémoire, à des héritages qu'on a faits et qui n'ont pas une bonne résonance avec nous, mais ça ricoche à l'image d'une balle de ping-pong dans une pièce. Donc quand on peut fluidifier ça, on va pouvoir, je dirais, bénéficier d'informations qui sont sur nos murs, qui vont nourrir notre esprit d'une façon tout à fait positive.
Bon alors, disons qu'on va s'y mettre, d'accord? On le fait, cette détox d'intérieur, on est submergé par le désordre à la maison, il y en a partout, on ne s'en sort pas. Par où on commence très concrètement et dans quel ordre?
Alors, il y a plusieurs méthodes, mais moi je propose deux choses. La première chose, c'est de regarder notre intérieur avec bienveillance. Souvent, on veut passer à l'attaque tout de suite et on n'a pas le temps de regarder. Donc je propose de faire un tour de notre intérieur et de regarder ce qui est déjà beau, ce qui est déjà parfait, ce qui est déjà harmonieux, parce que ça va nous inspirer pour étendre un petit peu à l'idée d'une contagion positive et vertueuse ces espaces. Donc on se dit, tiens, il y a un coin du salon qui fonctionne bien, il y a une vue sur une jolie plante, etc. Ensuite, on va s'occuper d'un petit espace, parce que souvent, un tiroir, une étagère sont à l'image du tout. Donc si on a plein
de
bazar...
J'ai fait une photo de mon étagère que je vous ai montré sur mon bar, il y a un petit coin à foutraque, à bordel, hein, j'appelle ça comme ça, et je l'ai rangé ce week-end en préparant justement cette émission. Et c'est vrai que ce matin, je me sentais vachement mieux en fait, hein, en voyant ce bar propre avec plus de courriers qui traînent partout. Je mettrai la photo sur Instagram de ce coin à bordel.
Ah c'est bien, bravo, voilà. Vous êtes courageuse.
Je mettrai l'avant l'après. Hein,
mais ça veut dire que ce qu'est en train de dire Mélanie, on commence par un petit coin et au fur et à mesure, on s'attaque pièce par pièce.
Tout à fait. Alors il vaut mieux ça que le faire d'un coup, parce que sinon, on a tendance à être découragé et il faut de l'énergie pour le faire. Parce que quand on fait un gros, une grosse détox, ben, on a besoin d'un coup d'envoi qui est vraiment important. Donc souvent, dans un petit espace, on va trouver exactement ce qu'on va trouver dans une grande armoire. Donc on va trouver des doublons, on va trouver des objets abîmés, des objets qu'on garde au cas où, parce qu'on a peur de manquer, on a peur de l'abondance.
Il y avait des barrettes, il y avait des chewing-gums, il y avait des clés, il y avait de tout dans ce petit coin.
Mais ça, c'est vraiment génial, hein, votre proposition de détox.
Quand
Clément,
on ne sert plus de quelque chose au bout de 2 ans, on peut se dire qu'on le jette ou pas?
Même
c'est
moins.
Un peu ça. Même moi,
au
bout de combien de temps vous conseillez? Même, je sais que moi, c'est vraiment les vêtements. J'ai des vêtements que j'ai pas utilisés peut-être depuis 5 ans, que je garde par affection. Je crois que c'est du S.
Moi, j'ai du lycée aussi.
Ouais, c'est ça.
Très bien. Parlons des vêtements.
Les vêtements
et
alors,
détox du dressing, c'est important ça.
Ça, c'est vraiment très important, effectivement, parce qu'on garde souvent des vêtements au cas où on maigrit, on change de poids, etc. Or, quand on change de poids, on change aussi d'énergie, d'apparence, et ça ne nous va plus. Souvent, ce qu'on a gardé ne nous convient plus. Et moi, ce que je propose, c'est 2 choses. C'est quand on va s'acheter des vêtements, quand on va faire les boutiques, on y va en étant d'abord de bonne humeur, en pleine forme, heureux et pas du tout en manque négatif ou pour se remonter le moral.
Bien sûr.
Alors, on va essayer d'avoir un autre point de vue sur toutes ces questions. On va prendre en ligne Christine Tessier de la société My Better Place. Elle est consultante Marie Kondo. Bonjour Christine.
Bonjour.
Alors, pour ceux qui ne seraient pas encore, c'est quoi la méthode de Marie Kondo?
Alors, c'est plutôt une méthode qui se base principalement sur le ressenti. Elle propose d'aborder ces objets par catégorie plutôt que pièce par pièce. Et je dirais que le bénéfice de cette méthode, c'est vraiment de ranger une fois pour toutes et pour toujours. On fait un grand tri, un grand désencombrement. On ne va pas forcément vers le minimalisme, mais cette méthode permet de redéfinir nos rapports aux objets. Et donc, évidemment, ça induit, comme le disait votre invité, des actes d'achat peut-être un peu plus responsables, en conscience. Donc, voilà.
Parce que ce que dit Marie Kondo, qui est ma prêtresse également, hein, c'est qu'on ne laisse pas rentrer un objet dans son intérieur si on ne s'est pas séparé d'un objet. On est bien d'accord.
Oui et non.
C'est comme avec les êtres humains. On attend, on en quitte un avant d'appeler l'autre, c'est ça. Il y a des règles.
Oui et non. Je dirais que le curseur, il est différent en fonction de chaque personne. Moi, je ne prêche pas la bonne parole et Marie Kondo non plus. Il y a des gens qui s'épanouissent dans le chaos, qui trouvent de la créativité aussi là-dedans. Mmh. Donc, moi, pour moi, le plus important, c'est de tendre vers un intérieur qui vous correspond parfaitement et qui correspond à la personne que vous êtes maintenant. Mmh. Donc ça, c'est important. Et ce que disait votre invité sur effectivement la charge affective, le poids de la mémoire, tout ça, c'est vraiment en faisant le point et en remettant l'église au milieu du village et en privilégiant justement des choix positifs, en se disant nous sommes vraiment la personne la plus importante dans cette maison, et donc les objets, les remettre à leur place.
Bien sûr, ce ne sont que des objets, et on commande jusqu'aux dernières nouvelles. Merci beaucoup Christine Tessier d'avoir été en ligne avec nous. Alors je reviens vers vous Alexandra Virag. Alors est-ce que le désordre, au fond, c'est forcément grave? Parce que tout à l'heure Clément parlait d'un désordre organisé.
C'est l'excuse des bordéliques.
Je vais aller plus loin, pardon, avant que vous répondiez justement. Moi, je fais un métier qui est quand même assez créatif et quand c'est trop rangé, j'ai beaucoup moins d'idées. J'aime en fait ressortir qu'il y en a un peu partout, avoir tout en visuellement pour pouvoir assembler et mieux comprendre. Quand c'est rangé, j'y arrive pas.
Est-ce que c'est grave, docteur?
Alors, c'est vrai qu'on a tous un seuil, comment dire,
de tolérance,
tout à fait, qui est différent. Maintenant, l'important, c'est de maîtriser les choses. C'est-à-dire que c'est important que vous puissiez vous dire, j'ai travaillé sur mon bureau où j'ai eu visuellement accès à toutes les, voilà, tous les objets, les images qui m'inspirent. Et puis après, je range, je mets de côté. Pourquoi? Pour être disponible pour une autre action. Parce que le problème du non-rangement, c'est que on a des informations de la vie passée. Donc le fait qu'on ait bu un café et qu'il traîne là, le fait qu'on ait travaillé sur un dossier et qu'on ait encore tous les papiers qui traînent partout et on n'est pas disponible pour le neuf. Donc ça c'est parfait, pourquoi pas d'étaler ces affaires partout, mais de les ranger pour pouvoir être disponible pour le prochain instant présent.
Merci.
Ah oui voilà, donc c'est pas grave Clément.
Non,
mais il faut quand même travailler, il faut ranger. Après il y a des gens vraiment qui gardent rien du tout, mais rien, qui vivent dans une folie de tout jeter, de donner. Moi je les appelle les rois du sac poubelle. Ouais. Est-ce que ça aussi c'est grave?
Alors, pourquoi du coup accumuler des objets? À un moment donné, si on possède très très peu, on ne devrait pas se retrouver avec l'idée de jeter, d'éliminer des choses. Simplement, on veille à ce que chaque objet qui entre chez nous ait du sens, nous convient, et donc on développe une nouvelle conscience de notre habitat, tout simplement. Donc, a priori, quand on doit se déposséder de tout, peut-être qu'il y a un besoin de changement, il y a un besoin de passer un nouveau cap dans sa vie, de remettre les compteurs à zéro.
Bien sûr. Comment on se débarrasse d'un cadeau, d'un objet justement, quand on a regardé comme ça, on a fait ce tour d'horizon de l'appartement, on se dit ce truc-là vraiment, je ne l'aime pas, mais c'est, je ne sais pas, mes parents qui me l'ont offert pour mes 30 ans. Donc il y a un attachement, on va dire, symbolique, mais on sait très bien qu'il ne nous sert à rien, que même il est toxique, entre guillemets, il est moche, il ne nous plaît pas. Comment on passe
faut
sa poubelle, justement?
Faut le réoffrir, mais pas la même personne.
Ah oui, oui,
un petit conseil pour ces objets symboliques qu'on n'arrive pas à quitter.
Tout à fait. Alors d'abord, c'est important de ne pas les garder chez soi. Donc, dès l'instant où on reçoit un objet, on se pose la question, est-ce que moi, je l'aurais acheté au magasin spontanément? Est-ce que spontanément, je l'aurais fait?
Si la réponse est non.
Si la réponse est non, eh bien, on répond très poliment, je te remercie, je sais ce que je vais en faire. Oh. Et puis vous le retirez du regard, vous le retirez de la vue, et puis ça vous appartient. Donc si vous recevez ce cadeau au bureau, vous le ramenez chez vous, et vous savez ce que vous allez en faire, c'est-à-dire
le donner, le jeter, le voilà.
C'est pas mal.
Et si vous le recevez chez vous, vous dites, ah, je sais ce que je vais en faire, je vais l'amener au bureau, et puis personne n'en saura rien.
Ah bah oui.
Et vous vous respectez. C'est très important de se respecter soi-même.
Non, mais c'est génial.
Deux, trois trucs au bureau, je crois.
Ah, mais merci, merci beaucoup de votre conseil. C'est très clair, mais
on va poursuivre. On sait ce qu'on va en faire du conseil.
On va poursuivre cette mission dans quelques minutes. On va voir ensemble un peu plus en détail comment on peut détoxifier son intérieur, sa déco, mais cela vraiment pièce par pièce. Et oui, c'est du pratique aujourd'hui. On est très organisé ce matin sur Europe 1.
Europe 1, 11h, 12h30.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Et oui, ça tombe bien, Madness, avec cette chanson qui s'appelle donc Clément Lanoux.
Alors, j'ai pas le titre, In the Middle
House. Je le dis très mal en anglais, évidemment, mais je l'ai dit quand même, hein, pour faire plaisir à notre réalisateur.
Et ça veut dire quoi, Mélanie?
Notre maison, évidemment. Bravo. Voilà. Alors, vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. C'est votre magazine Bien-être, Mieux Vivre, dans lequel on vous guide tous les jours vers une vie encore plus positive pour vous et surtout chez vous ce matin, car c'est notre question du jour. Comment détoxifier mon intérieur? Avec notre invité pour en parler, c'est la psychodécoratrice Alexandra Virag. Alors, moi, ça me passionne ce sujet, franchement. Hein. J'ai besoin de reprendre quand même les choses étape par étape. Pour la cuisine, par exemple. Parce que le petit coin à bordel dont je te parlais tout à l'heure, il est sur le bar de la cuisine, justement. Donc c'est pour ça que je commence par cette pièce. Mais j'ai quand même tendance à stocker beaucoup, beaucoup d'aliments. Des trucs que j'aurais peut-être, si ça me servira un jour, j'en sais rien. J'ai 10 000 bouillons, 10 000 trucs. Oui, Julia fait les gros yeux parce que c'est pas son genre. Comment on organise bien ses étagères, enfin sa cuisine, ses placards?
Alors déjà, c'est de faire l'inventaire de tout ce qu'on possède et à nouveau se dire, tiens, est-ce que c'est vraiment le must du bouillon que j'aimerais acheter? Donc c'est d'aller plus vers de l'épicerie fine, vers, à nouveau, au lieu d'avoir 4 pots de confiture à moitié entamés d'oranges, de fraises, c'est de choisir mais vraiment le meilleur pot de confiture de fraises et aller jusqu'au bout, le finir tellement il est bon. Donc c'est de viser la qualité plutôt que la quantité et de faire un inventaire régulier. Donc une fois par semaine, on doit savoir tout ce qu'il y a dans notre frigo, tout ce qu'il y a dans nos armoires. Et quand on va faire des courses, eh bien, on doit avoir une liste. Et pas se dire, tiens, je vais acheter un petit peu ce
au
qui m'inspire.
Des envies et des...
Mais se dire, ben, en tout cas, j'ai plus de confiture. Donc, si je trouve une confiture de rêve extraordinaire, c'est celle-là que j'achète et pas une vite fait comme ça que je trouve sous la main.
D'ailleurs, est-ce que vous avez un conseil à nous donner pour bien organiser notre frigo? Est-ce qu'il y a des trucs à savoir?
Alors, souvent, on achète trop. Et on achète sur base d'impulsion, donc c'est vrai que c'est intéressant de penser à faire des menus.
Moi, j'ai un conseil, ne jamais aller faire les courses quand on a faim. Ça, c'est la base.
Ah, hein, oui. Ah oui, et toujours, de toute façon, faire les courses quand on est heureux, quand on est de bonne humeur. Sinon, on va d'abord se zénifier un petit peu, faire une petite balade dans un parc, se détendre.
Et pour à ce pas moment-là, acheter n'importe quoi.
Et pas acheter n'importe quoi. Du coup, on est aligné, on est authentique, on est en paix. On est serein et du coup, on achète non pas pour combler un manque ou un vide, mais parce qu'on est déjà plein à l'intérieur. Donc, on va choisir de la qualité.
Bon, la chambre des enfants, on en a entendu tout à l'heure quelques-uns d'enfants chez Clément Lanoux. Elle est souvent, c'est juste un vaste capharnaüm, hein, puisque moi, je la range des fois 4 fois dans la même journée, puis elle est refoutue en bordel, comme on dit, immédiatement après. Comment on gère ça? Comment on fait une chambre d'enfant qui reste à peu près en ordre? Et comment on les dresse, surtout?
Ces petites choses. Les jouets?
Oui, là, je vous fais carrément parler d'enfants, alors allez-y, dites-nous.
Alors, j'ai remarqué qu'en général, les parents achètent des armoires ou des placards de rangement trop petits. Et du coup, l'enfant, pour ranger, doit vraiment réfléchir à comment ajuster un puzzle, comment remettre cette boîte en dessous de celle-là pour que tout s'emboîte bien dans l'armoire. L'idée, c'est de prendre une armoire qui est 20% de trop, un peu trop grande. Donc parfois, il suffit qu'elle soit un petit peu plus haute ou un petit peu plus longue pour que ce soit facile de ranger. L'idée aussi, c'est de prévoir avec l'enfant, supposons qu'on parte en promenade à 14h et il jette son bac de Lego sur le tapis à, par exemple, 13h30. Eh bien, on doit prévoir qu'il y a 5 minutes de rangement. Donc, à 13h25, on lui dit, c'est bien, tu as bien joué au Lego. Maintenant, tu as 5 minutes pour ranger parce qu'on part à 14h. Donc, c'est de prévoir la partie rangement. Donc, c'est-à-dire, on a les 3 étapes. L'envie de jouer à quelque chose ou l'envie de se servir une tasse de café. Le plaisir de jouer, de boire le café. Et ensuite, le rangement. Et
si qui peut être un plaisir.
La dernière phase,
qui peut être un plaisir.
Qui peut être un plaisir.
Non, juste pour vous, Julien.
Ouais. Pour les autres, prévoyez un quart d'heure, à mon avis, parce que 5 minutes...
Mais on ne peut pas, justement, embrouiller un peu nos enfants et de faire style, c'est trop rigolo de ranger.
Alors, je le sens vécu, non ? Vous avez fait ça avec
oui,
votre
alors, fille, j'en suis sûre. Ça peut se faire en musique. Et ce que je propose, c'est par exemple à la rentrée de l'école ou quand on passe, on prépare le goûter, c'est de choisir une musique au choix. Donc une fois c'est maman qui choisit, une fois c'est l'aîné, une fois le cadet. Une musique pleine de peps et d'énergie et pendant 12 minutes, on range. On range de tout. Donc l'enfant peut ranger les affaires de papa, de maman, la vaisselle, ses Lego. Et puis on arrête. Parce que ça, mais du coup, ça donne une discipline et une joie au quotidien. Ça devient une sorte de danse, d'expression de joie qui fait qu'on développe après une attention à tout ce qui traîne. Et ça développe chez l'enfant une forme de culture de trouver le plaisir et dans le rangement.
Voilà. C'est génial.
C'est très inspirant, en tout cas.
On essaiera. Ouais. On essaiera de ranger en dansant. Je trouve ça fabuleux.
C'est pas mal, je trouve. La salle de bain, ça dépend chez qui. Il peut y avoir beaucoup de produits cosmétiques, etc., qui traînent sur le lavabo, partout. Une salle de bain, ça peut être aussi très vite très encombré. Qu'est-ce que vous conseillez pour cette pièce-là ?
Alors, déjà, ce que je conseille, c'est de faire une sélection parmi tous les produits qu'on utilise et de ne mettre en évidence que ceux qui vont vraiment, dans notre imaginaire, stimuler la beauté, la féminité, la masculinité.
Il y en a beaucoup chez Clément Lanoux, hein, donc
mais non,
ça
moi
va être difficile.
J'ai du shampoing pour barbe, vous ne croyez
oh
pas
là
si
là,
bien dire.
C'est pas vrai.
Alors, ça doit être des beaux flacons. On va mettre en évidence plutôt des beaux flacons de parfum que la brosse à dents électrique et le rasoir. Ça, on met de côté. Et puis, on vérifie à nouveau que tout fonctionne bien et on évite dès l'instant où on a des fonds de parfum. Il ne reste plus que 10%. On ne va plus, en général, les terminer. Donc, à ce moment-là, il vaut mieux les éliminer. Et on se dit, bah, tiens, peut-être que je prendrai un plus petit flacon la prochaine fois parce que ça me suffit. Après, j'ai envie de passer à autre chose. Donc, tout ce qui est entamé et non utilisé depuis 6 mois, on élimine.
Et oui, en plus...
6 mois, ouais.
Oui, mais vous savez que les produits de beauté, en plus, sont périmables pour certains. Donc, on ne peut pas les garder non plus ad vitam aeternam. Alors, vous parlez également de conseils pour détoxifier son ordinateur. Alors, c'est drôle, savez-vous. Et même d'une détox des réseaux sociaux. Pourtant, ça n'a rien à voir avec la décoration. En quoi c'est lié, finalement ?
Alors, en fait, on passe souvent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et beaucoup de jeunes me disent « mais j'ai pas le temps de ranger mon espace de vie parce que je suis occupée ». Et quand je vois à quoi ils sont occupés, c'est-à-dire ils sont sur des tas de réseaux sociaux qu'ils soignent beaucoup. Donc, ils soignent leur image sur les réseaux sociaux, ils soignent ce qu'ils veulent montrer aux autres, mais ils ne soignent pas leur véritable vie. Donc, ils soignent le monde virtuel, mais pas le monde réel. Donc, je me dis toujours, démarrons nos réseaux sociaux quand on a déjà rangé notre maison, qu'on a pris soin de nous, qu'on a pris soin de notre espace de vie, puisque tout ricoche à l'intérieur. Et ensuite, on s'occupe de notre ordinateur.
Alors justement, puisqu'on parle des réseaux sociaux, sur Instagram, on a ce commentaire, cette question de Jude C. Warner. Elle demande, quels sont les règles du feng shui, car j'ai un studio. Le grand line peut-être, et ça nous permet justement d'expliquer ce que c'est que le feng shui finalement.
Oui, alors il y a beaucoup à dire, mais on va dire que dans un studio, mais c'est un petit peu comme un écrin. On a besoin là que vraiment, encore plus que dans un plus grand appartement, chaque objet soit vraiment un must. Pareil pour les vêtements, on ne devrait posséder que les musts, que les choses qui nous vont à merveille. Et donc dans un studio, c'est important aussi, par exemple, de varier une déco jour-nuit, ce qu'on appelle du coup yin, au niveau d'énergie beaucoup plus lente, beaucoup plus apaisante, des couleurs froides, et yang, tonique, et avec des couleurs chaudes. Donc on pourrait très bien, par exemple, dans un studio, varier, et quand on travaille dans le studio, mettre des couleurs toniques. Donc on a par exemple un plaid de couleur tonique sur le canapé-lit, on va avoir des coussins...
C'est quoi une couleur tonique, par exemple ?
Alors ça peut être des couleurs plus flash, plus intenses, plus vives, mais aussi le jaune, l'orange, le rouge, les bordeaux, et les couleurs plus yin, plus reposantes, plus froides, ça va être des gris, des taupes,
des
marrons,
bleu marine,
des beiges, des
bleus marines,
etc. Et donc on peut très bien voir des coussins de deux couleurs, on peut avoir des plaids de deux couleurs, on peut jouer avec des éclairages. Donc
il note
avoir...
Clément Lanoux, je le vois, parce qu'il va réaménager.
Voilà.
Là, donc...
Et je suis en train de ranger mon Instagram.
Coussin tonique, il a mis la coussin tonique, je vois, écrit sur sa petite feuille.
Et puis on peut jouer sur des éclairages, tout simplement, et aussi changer de place. Par exemple, quand on est en télétravail la journée, par exemple, face à la fenêtre, eh bien, le soir, on s'installe plutôt dos au canapé pour avoir une autre vue et avoir l'impression d'avoir du nouveau un horizon différent quand on est toujours dans le même petit espace.
Alors, dernière question, mais pas des moindres, on ne vit pas tout seul? Parfois, ah oui, on vit avec ça. Des gens, donc des enfants, des conjoints.
Nous, on peut avoir l'harmonie en soi.
Parce que voilà. Moi, je l'ai, hein, moi, j'ai le mojo du rangement, il n'y a pas de problème. Mais je n'ai pas l'impression que c'est forcément développé autour de moi. Comment on fait ?
Alors, l'idéal, c'est de ranger ensemble. C'est pourquoi cette musique et ces 12 minutes où tout le monde range pendant un petit moment, ça donne une impulsion collective. Alors, c'est vrai que quand la responsabilité est seulement sur une personne, hein, en l'occurrence, ça peut être la maman, ça devient très lourd. Donc, c'est
vraiment d'apprendre... Faut expliquer peut-être la démarche au mari, la démarche aux enfants. Enfin, quand on a un mari ou une femme, on va faire ça ensemble. Pour cette raison.
Et prendre les décisions ensemble. Et du coup, dire, bah, tiens, ce tableau, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on le garderait? Et si on décide de ne pas le garder, on va choisir le nouveau qui viendra ensemble. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Et du coup, on va adhérer à la décoration qu'on aura mis sur nos murs et on va adhérer au rangement qu'on aura mis en place ensemble.
Ah, c'est chouette. Merci beaucoup Alexandra Virac de nous avoir accompagnés ce matin. Merci pour tous vos conseils pour nous aider à retrouver l'harmonie donc chez nous et en nous. Pour plus d'informations, je rappelle votre livre Feng Shui, Force d'harmonie aux éditions Trajectoire. Merci encore.
Merci. Merci à vous Mélanie. À présent, on va passer à la séquence tendance de notre émission. Dans un instant, Philippine Darblay et Sophie Braffman vont nous rejoindre. La première va nous mettre l'eau à la bouche avec les dernières tendances en matière de cacao. Et puis Sophie nous transportera dans la mode en version tapis rouge sur Europe 1.
Europe 1, 11h, 12h30.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
De retour sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous. Du lundi au vendredi de 11h à 12h30, c'est votre magazine Feel Good, Bien-être. Et là tout de suite, Julia, on va s'arrêter sur deux tendances qui pour le coup vont nous faire beaucoup de bien, n'est-ce pas Julia?
Ah bah, je suis bien d'accord hein, avec vous Mélanie. Alors déjà, Philippine Darblay est avec nous dans ce studio. Je rappelle que vous êtes notre experte art de vivre dans cette émission. Et donc ce matin, vous allez nous faire saliver, je crois.
Et oui, on va parler de cacao, il y a plein de choses à dire.
Ah oui, merci Philippine.
À manger, j'espère.
On ne voit pas grand-chose sur la table, on verra tout à l'heure. Merci Philippine, on revient dans quelques minutes. On prépare pendant ce temps avec Julia nos papilles hein, qui vont exploser, je pense, avec vous. Mais tout de suite, on va démarrer avec Sophie Braffman. Mm-hmm. Pas d'explosion, là, enfin, quoique. Une chronique étincelante en mode festival de Cannes, c'est ça?
Alors exactement, bah, il se trouve que la Fashion Week, c'est pour bientôt. Donc je me devais de parler de ces tenues red carpet, tapis rouge. Mode grandiose, hallucinante, époustouflante et parfois ridicule aussi. Alors pour des galas de charité, hein, où cette simple tenue pourrait nourrir tout un village à l'autre bout de la planète. Mais là n'est pas le sujet. Ce qui compte avant toute chose lorsqu'on foule un tapis rouge, c'est voir et être vu et opter pour une tenue suffisamment significative, car sur tapis rouge, l'habit fait le moine.
Certainement. Je pense que vous faites référence au Met Gala qui a eu lieu à New York lundi dernier.
Exactement. Alors depuis, il y a eu les Emmy Awards, mais le Met Gala, c'est vraiment un énorme raout quand on parle de mode. C'est un peu ce que Cannes est au cinéma ou la choucroute à l'Alsace, une histoire de famille un peu lourde parfois. Après 2 ans d'absence, Covid oblige, le thème du Met Gala était America. A lexicon of fashion. L'Amérique, dico de la mode, really? Ça peut nous paraître étrange à nous autres Français, parce qu'on a quand même un petit côté chauvin qui consiste à dire, attention les gars, la mode c'est quand même chez nous.
Bah oui, enfin on fait attention à nos vêtements en France depuis la nuit des temps, non? Et on est le pays de la mode et de la haute couture, faut dire ce qui est.
Totalement Mélanie, je vous dis juste au corps, veste et culotte sur un imprimé fleuri, sans oublier les bottes blanches à hauts talons et semelles rouges. Non, je ne vous dépeins pas une drag queen en Louboutin sur un char de Gay Pride, mais le roi soleil en personne, car il était totalement prescrit de tendance. Il inspirait les monarques étrangers. Louis XIV, une star sur tapis rouge comme une autre. Donc je vous laisse réfléchir à cela. Mais revenons à 2021, dans le nouveau monde, à des princes et des princesses de télé-réalité avec de sacrément gros fessiers. Des stars qui ont rivalisé d'audace, d'ingéniosité et de mauvais goût aussi parfois, parce qu'au States, tout est plus grand, plus exaltant. L'américaine sourit à pleines dents quand la française conserve un petit rictus pincé. Make American Fashion Great Again. Rendre à Donald ce qui appartient à César, c'était peut-être ça l'objectif de ce fameux Met Gala lundi dernier, nous faire pâlir d'envie. Alors on commence avec la chanteuse Billie Eilish qui a ressuscité le glamour des studios hollywoodiens, celui des années 50. Je vais vous faire rêver grâce à sa robe Oscar de la Renta, un style entre Marilyn et Barbie, une robe rose saumon en tulle ultra ceinturée, des seins obus en avant, une taille corsetée, une longue traîne sur laquelle mieux valait ne pas marcher. Une allure qui n'aurait pas été totalement Hollywood sans les 500 000 euros de parure Cartier. J'espère qu'il y avait des bons gardes du corps.
Certainement. Alors, toutes les tenues, hein, j'ai regardé, n'étaient pas aussi glamour. Hein.
Vraiment même. Alors on a un autre genre, un autre esprit. Rihanna en Balenciaga et Bulgari, habillée de diamants et d'une robe tunique, manteau, matelassé, proche de la couette, hein, quand même assez laide, il faut le dire, et rehaussée d'un bonnet lutin sous lequel siégeait tout de même une couronne de strass, un mélange entre Grincheux et Morticia Adams. Pas étonnant que la jeune milliardaire soit arrivée en retard avec sa tenue sortie de lit. Côté Disney, Emily Blunt, elle arborait une couronne étoilée, vêtue de blanc et d'argent. On pense à la Reine des Neiges, vous avez une fille, Mélanie,
oui.
Hein, donc je ne
vais pas vous chanter la chanson parce que vous n'en pouvez plus.
Voilà.
Diane Kruger, libérée et délivrée des codes, a réussi le pari de rester sublime en robe verte jaune fluo, une couleur qu'on pensait quand même réservée aux aires d'autoroute. Pour le côté gilet jaune de la tenue, il a été vite démenti par un énorme diamant au doigt de Diane, Diane Vengeresse, Diane Pécheresse, hein, on se pose toujours la question. Au bal du grand n'importe quoi, qui a remporté ?
Kim Kardashian.
Bien sûr, bravo Julia, avec une tenue qui a créé la folie, hein, on doit le dire, Balenciaga Forever, bottes serrées en spandex cagoulées, cheveux enrubannés, dans une tenue ultra moulante, on ne voit rien de son visage.
Mais il paraît qu'elle s'est fait maquiller pendant des heures.
Mais non. À quoi bon ? Voilà, là, on ne voit pas, elle est totalement voilée, hein, entre un détraqueur dans Harry Potter et Dark Vador. Bon, à l'heure où les femmes ici et ailleurs cherchent à sortir des carcans imposés, je ne suis pas sûre que le message était de tout à fait bon goût. Enfin, la palme, évidemment, une française. Isabelle Huppert, chantre de l'élégance. Alors, elle aussi était en Balenciaga, mais attention, robe longue tulipe ou corolle. Hein, donc, c'est très cintré au début et un peu plus évasé sur le bas. En rouge, il a bien fallu deux Man in Black à Isa pour descendre les marches quand même. Hein, c'est bon. Plutôt difficile.
Ça nous fait rêver, les tapis rouges, mais avec toutes ces robes de créateurs. Mais nous, on ne s'habille pas avec ça. Enfin,
Alors, vous avez envie d'être palace chez vous, je le sens.
Bah oui.
Voilà. Alors, pour être palace chez soi, on va faire un truc hyper simple. On va pouvoir porter du Saint-Laurent ou arborer la dernière tenue de Kendall Jenner, mais à tout petit prix. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va louer sa robe. C'est écologique, économique et enfin l'occasion d'avoir quelque chose de très beau. Petit carnet d'adresses. Les prêteuses, alors elles sont très présentes sur Instagram. Vous allez trouver des robes ultra habillées, de grands couturiers que vous allez pouvoir louer pour une soirée. Les deux sœurs Léa et Raquel font elles font la sélection et elles s'occupent de tout, du pressing jusqu'au retour.
Donc ça coûte combien ?
C'est à partir de 80 euros pour des robes extrêmement belles, dignes des plus grands créateurs. Je continue avec une robe un soir, c'est un même principe de location de vêtements. Et la robe on a des robes de soirée, mais aussi des tenues plus casual. Donc c'est via un système d'abonnement qui démarre à 59 euros par mois et vous avez accès à tout un dressing. Enfin, côté accessible chez Bachoumage, et là on démarre à 15 voire 20 euros. L'occasion vraiment d'être palace chez vous, que vous ayez un cocktail, un dîner en amoureux ou tout simplement l'anniversaire de tante Janine.
Oh, merci pour ces idées palace. Merci Sophie Braffman pour cette chronique qui était effectivement particulièrement étincelante ce lundi. On va continuer dans les étincelles mais gustatives cette fois avec Philippine Darblé, avec les tendances cacao de la rentrée, je crois.
Eh oui, alors on sait tous que les pays anglo-saxons sont réputés pour leur sens de la nouveauté et on n'est jamais déçu. Alors après le véganisme et les morning rave, je ne sais pas si c'est quelque chose dont vous avez déjà entendu parler.
Moyen,
c'était des fêtes le matin à 6-7 heures avant d'aller au travail pour stimuler le bien-être.
C'est pour ça alors.
Eh bien, il y a un nouveau concept qui émerge cette fois autour du cacao. Ce sont des cérémonies sacrées dédiées à l'ingrédient. Alors, moi j'ai découvert le concept après avoir reçu une invitation par email. Celle-ci disait « Avec un esprit et un cœur ouvert, nous nous réunissons lors d'une cérémonie sacrée où nous permettons à la médecine du cacao d'adoucir ce qui nous gêne sur notre chemin.
Wow. »
Une dose chamanique de cacao sera servie suivie d'un voyage sonore.
Là, c'est à la perche.
Je me suis dit, ça vaut le coup de se pencher là-dessus. Le texte, lui, était accompagné d'une image, donc deux personnes avec des looks qu'on trouve plutôt à Toulouse ou Ibiza, hein, pour vous donner une idée. À moitié nu, joli corps, cheveux ondulés, effet coiffé, décoiffé, des vêtements déchirés, sans lettres, et puis les mains en signe de prière, comme ça, vers le soleil.
Ah oui, je vois. C'est un peu étrange quand même. Hein. Est-ce que ça serait une tendance qui serait pas finalement un peu anecdotique, ce truc ? Ou est-ce que c'est une vraie idée de fond ?
Eh bien, c'est ce que je me suis demandé. Et du coup, j'ai creusé un peu tout ça. Bon, avant de rentrer en détail dans la cérémonie, rappelons ce qu'est le cacao. Hein. Ce n'est pas du chocolat, on le sait bien. Ça n'est que sa base. Et c'est donc une poudre de graines de cacaoyer qui est un arbre considéré comme une plante médicinale.
Ah, oh, génial. Mais ça peut agir sur quelle maladie, par exemple ?
Eh bien, ça agit sur le cholestérol. Exactement, il y a des tonnes de propriétés qui agissent, qui peuvent très bien, par exemple, s'adresser au cholestérol, au rhumatisme, à l'arthrite, à la tension artérielle, puisqu'il est riche en fer, en magnésium, en vitamines, en cuivre, il est même anti-inflammatoire. Et surtout, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il permet de libérer de la dopamine et des endorphines qui jouent sur l'humeur. Mmh. D'où cette idée qu'on a du cacao un peu, voilà, plaisir. Il contient même de l'anandamide qui impacte la motivation et le sens du plaisir.
Bon, très bien pour tous ces bienfaits, mais moi, ce que je veux savoir, c'est, je reviens à votre cérémonie, là. Elle consiste en quoi ? Ça ressemble à quoi, la cérémonie cacao, là ?
C'est une cérémonie, en fait, qui date de cultures indigènes d'Amérique latine, qui sont en fait des cérémonies dédiées à la guérison. Alors, on prépare d'abord le cacao, Hein. Mm-hmm. C'est un peu dans un liquide, comme un café en fait. Vous le buvez comme un café. Et puis on peut ajouter du lait de coco, des huiles essentielles, des épices, de la vanille. Puis les personnes fixent ce qu'on appelle des intentions. Je ne sais pas, pour ceux qui ont fait de la méditation, c'est un petit peu comme les objectifs auxquels on dédie ce moment. On boit la fameuse potion et puis s'ensuit une série d'exercices de respiration, de chant, de danse et donc de méditation. Et puis ça peut changer selon les formats. Il est important de noter qu'il n'y a pas d'altération de la conscience. Parce que là, on se dit, oulala, ça ressemble un peu à un trip hallucinogène. Je vous rassure,
il
n'y
en
a pas.
Dedans.
Il n'y a que du cacao. Il n'y a pas d'éléments un petit peu nouveaux. Le but de ces cérémonies, c'est de travailler sur des blocages, des traumatismes, de dissoudre les énergies négatives et de stimuler la créativité. De manière générale, ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a pas mal de petites vidéos comme ça. On voit des gens... Franchement, c'est très positif. On voit des gens... très souriant, en train de danser ensemble. Il y a un côté un peu idyllique, ludique et effectivement perché, mais en même temps, ils ont l'air de passer un super moment.
Bah, j'imagine, mais alors est-ce qu'on peut passer ce super moment à la maison, enfin, est-ce qu'on peut le faire chez soi, la cérémonie?
Elle veut faire sa cérémonie cacao chez Julia.
Et bah, justement, c'est possible, et c'est ce qu'explique Shani Jay, fondatrice d'un blog qui s'appelle She Rose Revolution. Alors voilà, elle précise bien choisir un cacao éthique en faisant des tests avec ses goûts pour la préparation, et puis aussi pour tout ce qui est de l'ordre de l'animation, si vous préférez le chant, la méditation, etc. Choisissez quelque chose qui vous parle. Mmh. Bon, qu'on soit sceptique ou réceptif au sujet, on peut reconnaître que cette tendance a les avantages de mettre en avant à la fois une pratique ancestrale qui est quand même très tournée vers le positif. Moi, j'avoue, j'adore et je trouve qu'en ce moment, on a besoin de choses comme ça. Et puis, elle rappelle aussi les bienfaits du cacao. Donc, personnellement, bah, je suis curieuse. En plus, c'est bon, hein, c'est vrai. On n'en a toujours pas parlé, mais le goût, c'est top. Et puis, il n'y a que les fous qui ne changent pas d'avis. Alors moi, ce sera sur ma tout doux.
Oh, voilà, bah nous aussi, c'est vrai, on est tentés. Merci beaucoup Philippine, merci à vous également Sophie. On vous retrouve toutes les deux très bientôt dans Bienfait pour vous, mais à présent, on va changer de sujet, même si on va rester dans le bien-être de nos oreilles plus précisément, Julia.
Oui Mélanie, dans quelques minutes, ce sera notre dossier santé du jour et on va s'intéresser aux acouphènes. Vous savez, ces bourdonnements, ces sifflements incessants qui peuvent nous rendre fous, enfin en tout cas bien gâcher la vie de ceux qui en souffrent. Un médecin ORL, le docteur Boukara, sera avec nous pour nous détailler toutes les solutions pour en finir enfin avec ces bruits parasites. Alors restez avec nous sur Europe 1.
Il est midi sur Europe 1. Le programme d'Europe Midi avec vous, Romain Desarbres. Bonjour Romain.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous. Voici le programme d'Europe Midi. On sera à l'Élysée. Le président de la République vient de présenter son plan pour les harkis. Il a demandé pardon au nom de la France. Est-ce que c'est suffisant? On sera en direct avec un représentant d'association de harkis. Le gouvernement veut faire dans le sur-mesure avec le pass sanitaire. Est-ce que c'est une bonne idée? Pourquoi ne pas en finir avec le pass sanitaire? Car plus de 70% des Français ont reçu au moins une dose de vaccin. Je poserai la question à l'épidémiologiste Antoine Flahaut. Soyez bien là, à midi et demi, j'ai invité dans Europe Midi Hava Jamshidi. Son nom ne vous dit peut-être rien. Elle est grand reporter au magazine Elle. Elle revient d'Afghanistan. Elle va nous raconter le quotidien des femmes et plus particulièrement le quotidien des jeunes femmes de 20 ans qui n'ont connu que la liberté. Son reportage fait la une de Elle et le magazine est déjà en rupture de stock. On va parler des prix dans l'alimentation, les produits agricoles, les prix des produits agricoles augmentent, enquête Europe 1. On verra dans quelle mesure ça va être répercuté dans nos supermarchés. Et puis les débuts de Messi au Parc des Princes, gâchés, on peut le dire, par Pochettino, qui l'a fait quitter le terrain à 15 minutes de la fin de la rencontre hier soir. Colère donc de Messi, les informations de Cyril de la Morinerie. Voilà pour le programme d'Europe Midi. À tout à l'heure, dans une demi-heure.
Merci beaucoup Romain, à tout à l'heure.
Europe 1, 11h30, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
De retour dans Bienfait pour vous, votre nouveau magazine dédié au bien-être et au mieux vivre. C'est jusqu'à midi et demi. Et dans la demi-heure qui va suivre, comme tous les jours avec Mélanie, on va surtout prendre soin de votre santé et de votre bien-être.
Exactement, Julia, dès midi comme chaque jour, un invité, un expert est à nos côtés. Aujourd'hui, c'est le docteur Didier Boukara. Il est médecin ORL et avec lui, on va tenter d'en finir avec les acouphènes, ces bruits, ces sons parasites qui perturbent énormément la qualité de vie des personnes qui en sont victimes.
Et puis à midi 20, notre chronique vite fait, très bien fait.
Et ce dernier petit conseil bien-être du jour pour vous faire du bien jusqu'à la dernière minute de l'émission, ce midi, ce sera votre boulot, Sana Blanger. Vous allez nous accompagner dans une vie mieux organisée au travail, c'est bien ça ?
Alors absolument, je vous propose de préparer une feuille et un stylo parce que nous allons parler de la gestion du temps et des priorités, un petit exercice de développement personnel très rapide.
Parfait, merci beaucoup Sana, on vous retrouve avec joie dans quelques minutes. Pour le moment, c'est notre dossier santé du jour.
Europe 1.
Allez, c'est parti, on attaque notre dossier santé sur les acouphènes avec vous, docteur Didier Boucara, bonjour.
Bonjour.
Alors, je rappelle que vous êtes médecin ORL à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. D'abord, on va essayer de savoir précisément de quoi on parle. C'est quoi un acouphène ?
Alors, un acouphène, c'est un son non signifiant, c'est-à-dire qui ne représente rien du tout, qui n'a aucune valeur et qui est perçu uniquement par la personne alors qu'il n'y a pas de stimulation acoustique.
D'accord.
Il en existe plusieurs types selon la nature, parce que certains parlent de bourdonnement, d'autres de sifflement. Enfin, quels sont les sons justement qu'on peut entendre ou...
Alors, en fait, oui, le terme d'acouphène regroupe tout, sifflement, bourdonnement, tintement.
Ça peut être même une sensation de pulsation, je crois, hein, dans l'oreille, non, c'est pas ça ?
Là, vous évoquez d'emblée quelque chose qui est très particulier, ce qu'on appelle les acouphènes pulsatiles, où la personne entend les bruits de son cœur dans son oreille. C'est une situation qui, pour nous, médecins ORL, est tout de suite un petit signal d'alarme en disant « attention, il faut le chercher s'il n'y a pas une cause locale ». Un problème vasculaire, un petit kyste ou autre chose.
D'accord. Et c'est fréquent ou pas, ces problèmes d'acouphènes ? Quelle part de la population est touchée par ça ?
Alors, c'est un symptôme qui est très fréquent, puisque certaines études vont jusqu'à dire qu'il y a 10 à 20% de la population générale qui souffre d'acouphènes.
Donc
à un moment
10 millions en France ?
Oui, c'est à peu près c'est ça. Énorme. C'est vraiment ce que remontent les études. Alors, tout de suite, il faut différencier les acouphènes que tout le monde peut avoir, qui sont faibles, peu intenses, intermittents, de ceux qui vont être vraiment ressentis de façon plus présente chez la personne et retentir sur son quotidien.
Ça touche plutôt les personnes âgées, les jeunes, enfin, est-ce qu'il y a une tranche d'âge, on va dire, en particulier, qui est plus concernée par les acouphènes ?
Alors, c'est très rare, voire exceptionnel, chez l'enfant et l'adolescent. Ça devient relativement fréquent à partir de l'âge adulte et chez les adolescents qui sont exposés à des niveaux sonores élevés. Et puis, à l'extrémité, chez les seniors, c'est de plus en plus fréquent car c'est lié à l'évolution naturelle de l'audition avec l'âge.
Oui, mais il y a aussi, j'imagine, des choses qui peuvent causer des acouphènes. Est-ce qu'on sait d'où vient le problème ?
Alors, dans la grande majorité des cas, c'est un problème d'oreille, d'oreille interne. Le facteur déclenchant peut être une infection, une otite qui s'est compliquée. Ça peut être une exposition à des niveaux sonores élevés, soit dans le cadre quotidien, les loisirs, la vie professionnelle. Et puis, de temps en temps, il n'y a pas de cause identifiée.
D'accord. Ça arrive comme ça, on se réveille un beau matin et paf, ça siffle, c'est incroyable.
Oui.
C'est possible.
Oui, ça peut vraiment être de survenue tout à fait brutale. Dans ces cas-là, il faut rechercher s'il n'y a pas eu une exposition à un niveau sonore élevé les jours précédents. Et puis, il faut toujours prendre en compte le contexte général. Est-ce que c'est quelqu'un qui est un petit peu anxieux, stressé, voire déprimé ?
Est-ce que quand on a un acouphène, donc en général, c'est une oreille ou les deux d'ailleurs ? Ça touche quelle oreille en fait ?
Alors, habituellement, ça touche les deux oreilles.
Pas quelle oreille ?
Les deux oreilles.
On a les deux côtés. Je pensais que c'était qu'une oreille, moi.
Alors, ça peut être d'un seul côté. Et là aussi, ça a une valeur pour les médecins qui prennent en charge le patient. C'est qu'il faut aller chercher une cause locale. Être sûr qu'il n'y a pas une chose très simple comme un bouchon de cire. Ça peut être aussi une inflammation de l'oreille, une otite. Et dans des cas plus graves, un processus comme une tumeur.
Alors si on vient vous voir parce qu'on a des acouphènes, vous regardez quoi en consultation ? Vous allez me faire passer quel genre de test ?
Alors deux tests assez simples. Je vais regarder les tympans, je vais regarder vos oreilles avec un petit spéculum, voir être sûr qu'il n'y a pas une cause locale, une inflammation, un bouchon de cérumen.
Parfois vous enlevez un bouchon et ça va enlever l'acouphène ?
Ce n'est pas rare, c'est souvent génial. L'occasion de résoudre le problème assez facilement. Et puis deuxième élément, c'est de faire un test d'audition. La question numéro un, c'est est-ce que les acouphènes sont associés à une baisse de l'acuité auditive ?
Et alors ?
Alors, dans ces cas-là, soit il s'agit d'une baisse qu'on s'attend à trouver parce qu'elle est liée avec l'âge, par exemple, chez les seniors, soit il y a une baisse de l'audition récente et brutale. Là, ça va déclencher éventuellement un traitement en urgence pour essayer de redonner l'audition et de réduire les acouphènes. Et puis, si ce n'est pas le cas, on va être amené à faire des examens pour rechercher s'il y a une autre cause non visible à l'examen clinique et proposer un traitement qui peut être assez régulièrement un appareillage auditif chez les seniors.
C'est quoi ce traitement d'urgence dont que vous évoquez, on va dire, pour l'instant ? Il faut aller où pour en bénéficier ? Admettons, je ne sais pas, j'étais à un concert, j'étais un peu trop près des baffles et le lendemain matin, ça sonne dans mon oreille. Est-ce que je viens vous voir à l'hôpital ? Je vais aux urgences, je vais voir mon généraliste ? Enfin, comment on se procure ce traitement ?
Alors, le conseil, c'est de ne pas tarder, de ne pas dire « c'est normal, j'ai été au concert, que j'ai du bruit dans les oreilles ». Non, il faut consulter. Dans le circuit de soins, c'est d'abord le médecin traitant qui va vérifier l'état du tympan. Si c'est une otite, une inflammation, il donnera un traitement. Si ce n'est pas le cas, il orientera très vite vers l'ORL, car celui-ci va faire un test pour vérifier s'il y a ou non une atteinte d'audition et proposer un traitement qui repose principalement en urgence sur la corticothérapie, c'est-à-dire la cortisone.
D'accord. À prendre par la bouche ou comment ça se...
Non, par l'oreille.
Non, mais ça peut être des injections, oui, hein, parfois, c'est ça. Donc c'est ce que j'étais en train de...
Alors, en fait, vous évoquez tous deux un petit peu le profil du traitement. Le premier traitement initial, en général, si la perte auditive est légère, ça va être des corticoïdes par voie orale. Si par contre la perte est plus importante, ça peut être en perfusion, voire des injections à travers le tympan.
On avait raison toutes les deux, bah, quoi, voilà. En fait, hein, c'est ça.
Mais j'ai aussi entendu parler de traitement au laser, vous en pensez quoi, vous ?
Alors, il faut savoir qu'en matière d'acouphènes, comme c'est un symptôme très fréquent, on l'a dit au début de l'émission, tout a été proposé. Donc il faut avoir un petit peu un regard critique, voir si ce qui est proposé est un traitement validé scientifiquement, avec des études qui montrent sur des patients qui ont été pris en charge qu'effectivement ce type de traitement a une efficacité. À ma connaissance, sur le laser par voie locale, il n'y a pas d'éléments scientifiques qui montrent l'efficacité.
D'accord, donc on y va pas la peine d'aller vers ça, d'accord. Ouais. Par contre, il y a beaucoup de médecine alternative qui propose des choses, hein, pour lutter contre les acouphènes. Il y a de la sophrologie, de l'acupuncture. Est-ce que là, il y a une efficacité ou au moins, on va dire, au pire du pire, ça ne fait pas de mal, j'allais dire.
Alors, pour deux raisons. La première, c'est que nous ne connaissons pas tous les mécanismes des acouphènes, donc il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas du point de vue scientifique. Et d'autre part, si vous voulez, ces traitements vont agir un petit peu sur les conséquences de l'acouphène, qui peuvent générer de l'anxiété et du stress. Et que ce soit la sophrologie, l'acupuncture, il y a des praticiens spécialisés qui vont appliquer des techniques spécifiques aux acouphènes pour apporter une diminution des acouphènes.
Donc ça améliore quand même la qualité de vie, ça c'est important. Hein. Donc on ne s'en prive pas, je veux dire, de ces techniques-là, de ces médecines-là, si besoin.
Tout à fait, il ne faut pas, à mon avis, les qualifier d'alternatives. Elles ont tout à fait leur place dans la prise en charge du patient acouphénique.
D'autant plus que vous avez dit tout à l'heure que parfois, les acouphènes étaient liés au niveau de stress.
Tout à fait, c'est-à-dire que quelqu'un qui a une fragilité de l'oreille pour une raison X ou Y, avec des acouphènes très anciens qu'il a entre guillemets oubliés, peut tout à fait, à l'occasion d'un épisode de stress, de contrariété, voir une émergence à nouveau des acouphènes. Et dans ces cas-là, la prise en compte du caractère anxieux, stressé, par des techniques de relaxation, sophrologie, va pouvoir apporter un mieux.
On vient de parler des médicaments, enfin du traitement d'urgence qui peut permettre effectivement d'arranger les choses quand on vient d'avoir un choc brutal, enfin un choc auditif très fort, et pour traiter en urgence les acouphènes. En revanche, il y a quand même des médicaments, je crois, qui peuvent en provoquer. On dit des médicaments autotoxiques, c'est ça ? C'est quel
tout
genre,
à fait.
Quel genre de médicaments ?
Autotoxique, ça veut dire tout simplement toxique pour l'oreille interne. Et en fait, dans l'oreille interne, vous savez, il y a les petites cellules ciliées qui codent les sons. Et ces cellules peuvent être fragilisées, voire détruites par certains médicaments. Alors, ce sont des médicaments qui ne sont pas utilisés très fréquemment. Ce sont certains antibiotiques comme la gentaline, certains anticancéreux. Donc, le conseil à donner à quelqu'un qui présente des acouphènes et qui consulte un médecin pour une raison X ou Y, c'est de dire « Attention, j'ai une sensibilité des oreilles avec mes acouphènes. Est-ce que ce traitement ne risque pas d'aggraver ou de les révéler ?»
Donc, le signaler quand même à son médecin quand on donne un traitement.
Et comme dans cette émission, on préfère prévenir que guérir, est-ce que vous pouvez donner des conseils pour éviter de souffrir un jour d'acouphènes ? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place ?
Bon, si vous voulez, c'est la prévention d'ordre général, parce que tous les facteurs de risque cardiovasculaire, l'hypertension, le diabète vont un petit peu fragiliser l'oreille interne et peuvent donner des acouphènes. Dans la vie quotidienne, c'est surtout l'exposition à des niveaux sonores élevés. Ça peut être les loisirs, un concert, une soirée en discothèque, parce que nous ne sommes pas tous sensibles de la même façon. Et lors d'une soirée où il y a un groupe de personnes, certaines peuvent n'avoir aucun symptôme à la sortie avec un niveau sonore élevé et quelques-uns présenter des acouphènes. Donc, être sensible aux moindres symptômes, si l'oreille commence à siffler, c'est un signal d'alerte. Et puis surtout, se protéger du bruit avec des bouchons atténuateurs.
Parce qu'on récupérera pas ce qu'on a perdu, je veux dire, en audition. Donc vraiment, pour l'oreille, il faut faire très attention, quoi.
Tout à fait, le capital de ces cellules ciliées, il est fixé à la naissance. Mais on sait quand même que si on consulte tôt et qu'il y a eu un traumatisme de ces cellules, ce traitement corticoïde dont nous parlons peut favoriser une certaine forme de récupération.
Très bien, merci docteur Boukhara. Ne bougez pas, on n'en a pas encore terminé avec vous. Cet éclairage sur les acouphènes et leur traitement continue. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous poser vos questions, vous qui nous écoutez, sur Twitter, sur le hashtag Europe 1 ou encore sur notre répondeur au 3921.
11h, 12h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
C'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30 et nous sommes toujours en studio dans cette dernière demi-heure de notre émission consacrée à notre santé, notre bien-être et plus précisément, on combat les acouphènes ce midi pour que vous vous sentiez mieux et que vous puissiez surtout nous écouter bien sûr en toute sérénité. Alors on en parle avec le docteur Didier Boukhara, vous êtes médecin ORL et docteur, on l'a dit, on a quelques questions pour vous de nos auditeurs sur les acouphènes. On va commencer par celle de Cédric sur la page Facebook d'Europe 1 qui demande s'il n'y a pas des métiers plus à risque que d'autres d'avoir un jour ce genre de problème. Il demande lesquels, justement.
Alors, ce sont principalement les métiers où la personne est exposée à des niveaux sonores élevés. Alors ça peut être dans le domaine de l'industrie et du commerce, les transports, le train, le métro. Ça peut être aussi, et c'est pour nous une préoccupation parce que le suivi est moins régulier par la médecine du travail, tous les métiers du spectacle.
Bah oui.
Ingénieur du son, technicien,
ah oui.
Et y compris bien sûr les artistes qui doivent protéger leurs oreilles parce que c'est leur outil de travail.
Ils doivent porter des casques ces gens-là, anti-bruit, enfin des bouchons, je ne sais pas, il y a du matériel particulier ?
Oui, tout à fait, il y a des bouchons atténuateurs qui comportent des filtres et qui permettent, avec les conseils d'un audioprothésiste, de régler de façon à avoir à la fois une bonne protection et en même temps une bonne qualité d'écoute pour pouvoir exprimer les qualités artistiques.
Évidemment. Alors, une autre question nous vient de Maria Ange, elle a 52 ans. Elle nous a laissé un message sur le 3921, notre répondeur. Elle dit que sa fille de 28 ans a des acouphènes suite à un concert et apparemment elle a perdu un peu d'audition. Et surtout, elle veut savoir si elle risque d'être carrément appareillée comme les personnes âgées ou si elle peut espérer récupérer. Est-ce qu'il est encore temps de prendre le traitement, par exemple ?
On ne dit pas quand ça s'est passé, ouais, donc c'est ça le problème.
Donc, à partir d'un certain délai, il est un peu compliqué de mettre en route un traitement parce que les dégâts au niveau de l'oreille interne sont malheureusement fixés.
Au-delà de combien de temps ?
On va dire au bout de 2-3 semaines parce qu'on pense que la récupération ne se fera pas. Donc dans ces cas-là, ce qu'il faut lui proposer, c'est de garder cette attitude de prévention et de protéger ses oreilles, de faire un suivi auditif. S'il s'agit d'un accident unique, l'audition ne va pas se dégrader toute seule ou alors il y a un autre problème d'oreille. Et donc de faire un suivi régulier, peut-être que cette petite atteinte auditive qu'elle a, elle va la conserver sans qu'elle s'aggrave jusqu'à être plus âgée.
Oui, parce qu'un appareil auditif à 28 ans, personne n'en a envie, effectivement.
Oui, mais il faut aussi un peu dédramatiser. Vous savez, tout le monde a des oreillettes. Et en fait, les appareils auditifs, les gens ont un petit peu une réticence, alors sachant que ça peut malgré tout leur rendre de grands services, atteinte auditive, et y compris dans les acouphènes. Donc, une fois qu'on l'a essayé, la plupart des gens nous disent « si j'avais su, j'aurais fait plus tôt
bon. ». On a aussi Sylvain à Paris, via Twitter, qui dit « je fais du bruxisme », donc il grince des dents la nuit, hein, c'est ça le bruxisme, et il a des acouphènes sur une oreille. Est-ce que ça peut être lié, demande-t-il ?
Alors, effectivement, un certain nombre d'acouphènes sont liés à des problèmes soit musculaires, soit de l'articulation de la mâchoire, et le fait d'avoir un bruxisme peut créer des modifications au niveau de la perception auditive. Il faut être très prudent, je pense qu'il faut lui recommander de consulter un ORL pour vérifier quel est l'état de son audition et de un petit peu interagir avec le chirurgien dentiste ou le stomatologue, chirurgien maxillofacial qui a identifié le bruxisme pour voir quel est le traitement le plus adapté.
D'accord. Ça veut dire que là, des gouttières, par exemple, qu'on peut donner aux gens qui ont du bruxisme, qui grincent du dent la nuit, ça peut aider à faire disparaître l'acouphène ?
Ça peut, dans certains cas, le faire.
Alors moi, j'ai entendu parler du Botox. Alors évidemment, ça m'intéresse.
Ça m'étonne.
mais qui pourrait être utilisé par certains dentistes contre les acouphènes. C'est dingue.
Ah oui, d'accord.
Non, alors là, très sincèrement, les indications, elles sont quand même très très rares. D'abord, il faut faire établir le lien qu'il y a entre une pathologie qui est sensible au Botox et généralement des acouphènes. Ça serait des problèmes de myoclonie, des problèmes musculaires au niveau des tout petits muscles de l'oreille. Ça reste très, très exceptionnel.
D'accord. Il va falloir que je trouve une autre excuse.
Pour se rembourser le Botox.
Bon, dernière question au 3921, toujours sur notre répondeur. C'est Lydia, près de Rodez. Elle dit qu'un ami lui a parlé du ginkgo biloba pour soulager les acouphènes. Est-ce que c'est efficace, effectivement, docteur ?
Alors, le ginkgo, comme beaucoup de plantes, mais en particulier le ginkgo, c'est connu depuis très longtemps et revendiqué, enfin, et présenté comme protégeant.
C'est un complément alimentaire, hein, c'est ça ?
C'est un petit peu plus que ça, parce que c'est un procédé qui va améliorer le fonctionnement des cellules sensorielles et des cellules de la mémoire. Bon, c'est vrai que beaucoup d'études ont été faites et que ce médicament est utilisé relativement régulièrement. Il a peu ou pas d'effets indésirables, il est bien toléré. Dans un certain nombre de cas, il soulage des symptômes.
Et ça peut nous faire du bien, enfin, je veux dire, empêcher nos oreilles de vieillir, quoi. On pourrait tous en prendre, je veux dire, du ginkgo biloba.
Malheureusement, si c'était certain, on en prendrait tous à la cinquantaine.
Oui, c'est trop fastoche.
Alors, c'est pas le cas.
Moi, j'ai entendu parler de générateurs de bruit blanc. C'est quoi ça ?
Alors, en fait, l'idée, quand on a des acouphènes qui sont un petit peu présents, qui embêtent le quotidien, c'est d'essayer, peut-être pas forcément tout de suite de les faire disparaître, mais de les intégrer dans l'environnement sonore. Et ces générateurs de bruit blanc dont vous parlez, ce sont des sources sonores qu'on va utiliser à des niveaux faibles et qui vont faire que notre cerveau va disperser son attention. Au lieu de se focaliser sur les acouphènes, eh bien, cet environnement avec les bruits blancs va disperser l'attention.
Et ça, on peut les acheter où ?
Alors, vous allumez votre aspirateur, ça fait un bruit blanc, je crois.
Oui, mais c'est un peu trop fort, là. Ça va faire plutôt un effet de masque. Non, vous pouvez... Certains peuvent être téléchargés sur Internet ou les audioprothésistes peuvent faire à ce moment-là un accompagnement plus ciblé en fonction du type d'acouphène.
Eh bien, merci beaucoup, docteur Boucard, d'avoir été à nos côtés ce midi. Merci pour tous vos conseils très pratiques pour lutter contre les acouphènes. Même si on l'a compris, mieux vaut prévenir que guérir. Donc, on fait attention quand on va en concert, les bruits forts et tout ça. On a compris. Merci encore.
Merci à vous.
Docteur. À présent, Julia, il est temps de passer à notre quotidienne, notre chronique quotidienne. Vite fait, très bien fait avec Sana Blanger. Vous nous conseillez pour mieux gérer notre temps au boulot, c'est à vous.
Eh bien oui, je suis passée vous voir aujourd'hui pour vous proposer des clés très simples à utiliser afin d'améliorer la gestion de votre temps et de vos priorités
avec
en
plaisir,
entreprise.
Bah, avec oui. plaisir, Sana, mais quand on parle de temps, c'est quoi exactement ?
Alors, déjà, il faut se souvenir que le temps est une notion développée par l'humain pour appréhender le changement dans le monde et avoir un repère commun.
Alors, excusez-moi, le micro était coupé, c'est ma faute. Pour quelle raison est-il préférable de bien gérer son temps ? Donc là, on est dans le travail, on a dit. Hein.
Le travail et justement également la vie privée, parce que tout simplement, il faut redevenir acteur, propre acteur de sa vie pour ne pas ou moins subir les événements extérieurs. Sachant que le résultat est vraiment immédiat, puisque vous gagnez en qualité de vie, donc vie perso, vie en entreprise, et c'est d'ailleurs la formation la plus demandée en entreprise, hein, gestion du temps et des priorités.
Ça ne m'étonne pas. Alors comment justement, Sana, on gagne du temps ?
Alors justement, 5 minutes, c'est vraiment trop court pour parler de toute la gestion du temps et des priorités. Donc allons plutôt vers les fondamentaux et je vais tâcher d'être pratico-pratique et de vous inviter donc à prendre la fameuse feuille de papier et de stylo. Oula. Et on commence le premier exercice. Allez, je vous laisse une seconde.
D'accord, c'est bon, on est prêt. Vous pourrez réécouter l'émission en podcast, mais si vous n'avez pas le temps de le faire, c'est maintenant, hein, c'est ça ?
C'est exactement ça. Alors vous allez faire votre premier auto-diagnostic sur ce que l'on appelle les voleurs de temps. Hein, ça porte bien son nom, les voleurs de temps, et oui, c'est la base pour y arriver. Donc, ils sont là et votre premier travail va consister à les identifier. Et pour cela, en fait, il y a 2 grilles de lecture. La première, ce sont les voleurs de temps externes et la deuxième grille de lecture est là et sont les voleurs de temps internes. Donc, est-ce que vous avez comme ça une idée de voleurs de temps externes ?
Les réunions, les réunions, les réunions.
Eh bien oui, ouais. Voilà, par exemple...
Elles sont trop longues, c'est pas qu'elles ne devraient pas exister, mais c'est trop long.
La réunionite, là.
C'est exactement ça. Alors absolument, la liste est longue, mais vous avez raison, les réunions trop longues ou mal préparées. Vous avez les interruptions des collègues, les conflits mal gérés, la pause café à répétition avec les collègues, hein, je vous fais une...
les potes, les collègues.
Voilà, les collègues. Bravo, la contraction, les collègues. Les urgences également, qui sont toujours des autres. Et puis en télétravail également, parce que c'est vrai que nous avons des auditeurs qui télétravaillent, eh bien, ce sont les enfants qui vous sollicitent, les voisins qui passent leur vie à faire des travaux, donc la perceuse. Et puis la série également qu'on est tenté de regarder, parce qu'elle est top hein, cette série. Le colis qu'on avait du mal à récupérer aujourd'hui quand on est à la maison,
oui, évidemment.
Oui, on peut y aller. Et puis en fait, observez bien votre vie, observez votre quotidien et vous trouverez les voleurs de temps externes.
D'accord. Bon, et alors, les voleurs de temps internes, là, bien, ça va être quoi, par exemple, la difficulté, je ne sais pas, à déléguer, par exemple ?
Bravo ouais. Mais qu'est-ce qu'elles sont fortes ! Bravo, bravo.
Pourtant, vous arrivez bien à déléguer, Mélanie, moi,
ah
je
bon
trouve.
Ouais,
dis donc. Vous êtes forte.
Eh bien, résultat, on fait par soi-même et ça nous plombe, donc ça nous retarde. Vous pouvez aussi manquer d'organisation, avoir des difficultés de compréhension ou d'acceptation du changement, ne pas oser demander de l'aide aussi. Alors, il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas et résultat, on le fait soi-même et ça nous ralentit. Être perfectionniste, c'est également nous ralentir dans notre gestion du temps parce qu'on veut bien faire, voire trop. Et puis, tout simplement, vous pouvez être fatigué, stressé, malade ou être le et la spécialiste de la procrastination qui nous amène à repousser à demain les échéances pléthore, pléthore, pléthore.
Alors, pouvez-vous nous expliquer pourquoi on procrastine parfois ?
Alors, vous procrastinez, vous, Julia ?
Jamais. Ah non, ah oui, c'est ma passion.
Non, moi non plus. Mais
c'est ma passion.
Pour les procrastineurs qui nous écoutent.
Alors, Henri Laborie, qui est médecin du XXe siècle, s'est penché sur la neurobiologie et sur notre mode de fonctionnement. Et voilà ce qu'il nous fait. Le constat est le suivant. Nous avons une tendance, dès le matin, à faire ce qui est facile, ce qu'on connaît bien, ce que l'on maîtrise, ce qui nous fait plaisir et ce qui est urgent. Et puis ensuite, on va s'atteler à ce qui est nouveau, ce qui est compliqué, clairement, et... éventuellement, ce qui est important. Donc, une fois qu'on a fait ce qu'on aime, qu'on va vers la zone de plaisir, eh ben, y a plus d'essence dans le moteur et on remet à plus tard. Je vous donne un exemple très concret. On pense à appeler Tata Simone et on se dit, bon, ben, je l'appelle plus tard, on fait autre chose, Tata Simone, et à la fin de la journée, vous aurez l'impression d'avoir passé la journée au téléphone avec Tata Simone.
Et donc, la solution, c'est donc la to-do list, ouais. J'imagine.
Eh bien,
ma
oui.
passion.
Vous avez déjà les solutions, mesdames, manifestement. Très simple. À votre to-do list, vous rajoutez du matin la question primordiale qui est qu'est-ce qui est important pour moi à faire aujourd'hui ?
Mais évidemment. Bon, en résumé, un peu de travail, mais qui sera bénéfique pour nous, c'est ça ?
Eh bien, c'est ça, oui, à faire seulement et si. Vraiment, vous êtes décidé à améliorer votre quotidien et celui de votre entourage. Vous prenez le temps vraiment de faire vos 2 listes. Vous aurez par conséquent une vision plus claire de ce que vous pourrez améliorer et ce que vous pouvez conserver. C'est un vrai travail d'observation et d'introspection. Le plus important, pardon, est de conserver votre écologie personnelle parce que ce sera bien fait pour vous.
Oh, merci beaucoup, Sana, pour tous ces conseils. Je reviens vers vous très rapidement, docteur Boukhara, parce qu'on a une dernière question sur Facebook de Monique qui demande, alors elle dit, quand elle est dans le midi de la France, elle entend les cigales et ensuite, pendant plusieurs jours, elle a des acouphènes. Pourquoi ? Et est-ce rare ? Est-ce que vous pouvez répondre en quelques secondes ?
Non, en dehors du plaisir des vacances dans le midi avec la perception des cigales, il n'y a pas de raison pour, au niveau de l'oreille interne et son fonctionnement, que cette perception se prolonge plusieurs jours après. C'est sans doute le côté affectif avec la Provence.
Bien sûr, elle a envie d'entendre les cigales comme nous toutes et nous tous. Merci Sana en tout cas pour ce petit cours d'organisation au boulot. Entre la détox de la maison et vos conseils, franchement c'était une émission bien rangée aujourd'hui, hein, Mélanie. Ouais. Hein, bien fait pour vous, c'est donc terminé pour ce lundi. On vous retrouve bien sûr demain dès 11h. Et Mélanie, demain, quelle sera notre grande question du jour ?
Alors Julia, demain on va se poser cette question. La crise de la quarantaine est-elle un mythe ou bien un passage obligé ? Comment bien l'aborder, quoi qu'il en soit pour vous et dans vos relations avec les autres ? On vous dira.
Et puis Mélanie, il y aura encore de nouveaux sujets tendances de la santé, du bien-être. D'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou sur le répondeur de l'émission au 39 21. À suivre, c'est Europe Midi avec Romain Desarbres.